Il est midi et demi, place au journal de la mi-journée sur Europe 1 avec vous Florence Cohen. Bonjour Florence.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
La pipolisation de la vie politique, le mélange vie privée, vie publique, je trouve que c'est dommage qu'il soit parti à cause des raisons qui ont suscité son départ.
Parole d'électeur parisien après le séisme, Benjamin Griveaux, la campagne de l'activiste russe, la compagne Piotr Pavlensky est en garde à vue. Elle aurait été la destinataire des vidéos intimes de l'ex-candidat. La réforme des retraites arrive demain à l'Assemblée nationale. Une grève peu suivie, a priori, à la RATP. La discussion au Parlement, on en parle avec notre invité, le politologue Olivier Roucan, dans un quart d'heure. La tempête Dennis souffle fort sur la Bretagne, jusqu'à 130 km/h sur les côtes. Attention aux pluies également.
Il y a généralement une belle marée et puis quand même pas mal de vent, hein, puisque vous prenez une bonne douche sur la corniche.
Lille-Marseille ce soir dans la 25e journée de Ligue 1 de football. Journal des sports dans un quart d'heure avec Félix Roy. Des mamies qui tricotent des poches pour les bébés kangourous dont les mamans ont été tuées dans les incendies en Australie.
Nous sommes devenus les grands-mères des bébés kangourous.
Ces petits animaux tout petits, il fallait faire quelque chose.
Ça se passe à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Et puis après 13h, les carnets du monde, on ira en Pologne où les juges ont la vie dure et au Kenya infesté de criquets.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Benjamin Griveaux est-il tombé dans un piège? La compagne de Piotr Pavlensky est en garde à vue depuis hier soir. Piotr Pavlensky, c'est cet activiste russe qui revendique la diffusion des vidéos sexuelles qui ont fait tomber le candidat à la mairie de Paris. Si cette jeune femme est interrogée par les policiers, Marion Dubreuil, c'est parce qu'elle aurait été la destinataire des vidéos intimes de Benjamin Griveaux.
Oui, la compagne de Piotr Pavlensky est la destinataire des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, des vidéos envoyées au cours d'une discussion privée sur Facebook entre la jeune femme de 29 ans et celui qui était alors porte-parole du gouvernement en mai 2018. Les enquêteurs cherchent à savoir si la jeune femme a délibérément transmis les images à l'artiste russe ou si son compte informatique a été piraté. Les policiers s'interrogent sur l'implication de Piotr Pavlensky qui a revendiqué la publication en ligne des vidéos. L'artiste russe dit avoir voulu dénoncer l'hypocrisie et le puritanisme affiché du candidat LREM à la mairie de Paris. Est-ce qu'il s'agit d'un acte politique ou d'une vengeance personnelle contre un ancien rival? Pour le moment, Piotr Pavlensky n'a pas encore été entendu par la brigade de répression contre la délinquance à la personne. Il a bien été placé en garde à vue dès hier soir, mais pour un tout autre motif. Il est soupçonné d'avoir blessé au couteau deux convives lors d'une soirée privée de la Saint-Sylvestre. Sa garde à vue pourrait basculer d'un moment à l'autre sur l'affaire Griveaux.
Et on apprend à l'instant que l'avocate qui représentait le couple Pavlensky vient de se désister. Benjamin Griveaux a porté plainte contre X. Une enquête est ouverte pour atteinte à l'intimité de la vie privée. La République En Marche se cherche toujours un candidat pour briguer l'hôtel de ville parisien. Elle espère trouver le nom idéal d'ici à demain. Dans le journal du dimanche, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, appelle au rassemblement le plus large, y compris avec Cédric Villani. Le candidat dissident a rencontré hier Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche, mais plutôt pour parler du deuxième tour, hein, pas du premier. À droite, Rachida Dati appelle ceux qui veulent l'alternance à la rejoindre. Et les électeurs parisiens, que pensent-ils de cet imbroglio? Marion Gauthier, vous vous êtes rendue sur le marché du 15e arrondissement. Dans quel état d'esprit sont les Parisiens?
Indécis, hein, Florence, mais surtout médusés. La plupart des habitants du quartier passent vite en soufflant, parfois tête baissée, entre les militants de tous bords qui tractent sur le marché. Laurent les a évités. Il comptait voter Benjamin Griveaux. Il regrette la polémique qui a entraîné sa démission.
C'est son choix. Il se respecte maintenant. Les raisons pour lesquelles il s'est retiré, moi je n'adhère pas. La pipolisation de la vie politique, le mélange vie privée, vie publique, je trouve que c'est dommage qu'il soit parti à cause des raisons qui ont suscité son départ.
Qu'est-ce que vous attendez maintenant?
J'espère quelqu'un qui va avoir des idées, on va dire, qui sont proches des siennes. Et moins de vidéos ou pas de vidéos.
La page Griveaux, pas encore tournée. Son nom figure toujours sur les tracts de la candidate La République En Marche du 15e arrondissement. Pierrette refuse d'en prendre un, sarcastique.
On a bien critiqué l'ancien monde, mais il revient à tour de bras. Quand on affiche sa conjointe sur Paris Match, il faut être prudent quand même après.
Un manque de cohérence que souligne aussi Enzo, 20 ans, partisan de la candidate Les Républicains Rachida Dati.
Je me réjouis pas d'une situation mauvaise pour un concurrent d'une liste que je tracte aux élections de Paris. Là, le niveau est descendu bas. On aurait préféré que le niveau porte sur les idées, sur les solutions pour Paris.
Mais certains passants souhaitent même courage à La République En Marche. Ils espèrent qu'une fois la tête de liste retrouvée, la campagne pourra reprendre.
Merci Marion Gauthier, en direct d'un marché parisien pour Europe 1. Alors Emmanuel Macron n'a pas fait de commentaire public sur cette affaire Griveaux. En revanche, le chef de l'État est très attendu dans les semaines qui viennent sur un sujet très sensible, celui de la laïcité. Dans le journal du dimanche, le président des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, fait cette déclaration. On est en train de perdre le combat contre l'islamisme. Bientôt, il sera trop tard. Fin de citation. Alors, il demande une mise sous tutelle républicaine des collectivités qui seraient complices de communautarisme.
Europe 1, midi 35, la suite du journal, Florence Cohen.
En plein chassé-croisé des vacances de février, un tragique accident de la route dans le Var. Ça s'est passé au péage de Fréjus sur l'autoroute A8 et il y a 4 morts, Yasmine Akatou.
Oui, au total, 6 passagers étaient présents dans un véhicule type monospace. Seulement 2 personnes ont survécu. Elles ont été évacuées par hélicoptère vers les hôpitaux de Nice et Toulon. Elles sont aujourd'hui en urgence absolue. 2 des victimes ont été éjectées. L'une d'elles a été retrouvée dans la partie basse du véhicule, un choc d'une rare violence que décrit le capitaine Peter Jones, responsable des opérations de sauvetage.
Le véhicule a heurté l'îlot, basculé par-dessus cet îlot en béton, et elle est venue se mettre en travers de la voie de circulation au niveau de la barrière de péage. Et donc, il y a eu une grosse déformation de l'habitacle.
Selon les premières constatations, le véhicule est arrivé beaucoup trop vite sur la barrière de péage. L'une des hypothèses serait une perte de contrôle due à un malaise. Les passagers étaient des personnes âgées entre 60 et 80 ans. Le véhicule était immatriculé dans le Nord. Il s'agirait donc de touristes. Les identifications des corps sont en cours. Le parquet de Draguignan est en charge de l'enquête.
Merci Yasmine Akatou. La réforme des retraites arrive en examen demain à l'Assemblée nationale. 41 000 amendements déposés, c'est dire si les discussions seront ardues. On a tous en mémoire la grande grève d'un mois et demi à partir du 5 décembre, l'arrêt des transports, mais aussi des coupures d'électricité sauvages orchestrées par des agents CGT d'EDF. Le président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, était ce matin l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. Il y aura des suites judiciaires à ces initiatives.
Les coupures de courant, il faut les condamner. Les Français ont droit à avoir de l'électricité en permanence et lorsque des faits sont prouvés, le dépôt de plainte d'EDF est systématique.
Il y a eu combien d'actions du coup depuis le début ?
Il y a eu, je crois, 80 plaintes ou 90 plaintes qui ont été portées là où il y a eu des coupures. Certaines de ces coupures ont touché des maisons de retraite, ont touché des cliniques, des hôpitaux. Et donc on a pris le risque d'atteindre à la sécurité physique, à la bonne santé de nos concitoyens. Nous souhaitons que le service public de l'électricité, ça soit en effet de livrer de l'électricité en permanence à tous nos clients.
Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Les transports en commun devraient être peu perturbés demain à Paris. 4 syndicats appellent à une journée morte pour le début donc de l'examen de la réforme des retraites par les députés. Dans la capitale intramuros, les RER A et B, les bus et les tramways fonctionneront normalement. Dans le métro, trafic quasi normal, des perturbations sur les lignes 2, 5 et 12. Un site internet pour mieux choisir sa contraception. Il s'appelle choisirmacontraception.fr et il est lancé par le ministère de la Santé parce qu'au-delà du préservatif, de la pilule et du stérilet, il existe d'autres moyens, plus méconnus, d'éviter une grossesse non désirée. Mode d'emploi de ce site avec Ève Roger.
D'abord, il faut répondre à une vingtaine de questions sur son mode de vie, sa santé, sur son mode de contraception idéal. Est-ce qu'on a envie d'y penser tous les jours, seulement une fois par mois ou une fois par semaine? Qu'il diffuse ou non des hormones? Qu'il provoque ou non la disparition des règles? Et puis, avec nos réponses, le site détermine quel est le moyen de contraception le plus adapté. L'objectif de cet outil, explique Delphine Raïb de Santé publique France, c'est de pouvoir aider les femmes à changer de contraception en fonction de leur situation.
Ça peut être quelqu'un qui utilise une pilule depuis longtemps et qui change de situation affective, que sais-je. Et du coup, cette personne va se mettre à l'oublier. Ça peut être une personne qui utilise un patch et qui change de milieu de vie ou retourne vivre avec de nouvelles personnes et qui ne veut pas que sa contraception soit visible par les autres.
L'important, c'est d'avoir une contraception efficace et adaptée. Il faut savoir que parmi les grossesses non prévues, dans 2 cas sur 3, la femme avait pourtant essayé de l'éviter.
Et bien sûr, la consultation de ce site ne dispense évidemment à rien de la consultation chez le gynécologue. Elles n'ont pas attrapé le coronavirus. 120 personnes qui étaient en quarantaine depuis 2 semaines dans le sud de la France retrouvent la liberté aujourd'hui. En Chine, la maladie a fait 1 700 morts et plus de 68 000 contaminés. La France compte désormais 12 cas après la contamination d'un Britannique qui avait côtoyé les malades des contamines montjoie. Un patient chinois de 80 ans est mort à Paris vendredi. On va se retrouver dans un petit instant sur Europe 1 pour la suite de ce journal et la tempête Denise qui souffle fort sur la Bretagne.
Europe 1.
Il est 12h40, la suite du journal sur Europe 1, Florence Cohen.
La tempête Denise souffle en ce moment sur la Bretagne avec de très fortes pluies. Le Morbihan et le Finistère sont placés en vigilance orange. 10 000 foyers sont privés d'électricité. Attention aux fortes vagues si vous vous trouvez près des côtes. Et écoutez ce gérant de restaurant de Concarneau, ça souffle fort.
Ça souffle pas mal là ce matin, ouais. Sur le port, bah, ça remue, les bateaux remuent. Il y a de la houle, ça claque contre la corniche, oui, il y a des belles vagues, il y a des belles photos à faire, oui.
Mais alors là, j'ai l'impression que moi-même, j'entends le vent à travers le téléphone.
Ah oui, ça peut par contre. si je sors, vous l'entendez un petit peu.
Exactement.
En plus, la mer est haute, donc fatalement, les vagues, ça provoque un peu d'embrun, ça passe par-dessus les digues. Quand ça commence à passer par-dessus et à quasiment traverser la route, c'est qu'il y a... Il y a généralement une belle marée et puis quand même pas mal de vent, hein, puisque vous prenez une bonne douche sur la corniche. On est habitué, vous savez, dans le Finistère.
Bon, attention, hein, les photos, c'est bien joli, hein, mais par ce temps-là, vraiment prudence, le mieux, c'est quand même de rentrer chez vous. On fait un point météo, bien sûr, avec Valérie Darmon, après le journal des sports. Vous vous souvenez forcément des images terribles des gigantesques incendies en Australie. Elles ont ému le monde entier. Elles ont entraîné aussi un immense élan de solidarité aussi pour les habitants. Et aussi pour les kangourous. À Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, un club du troisième âge tricote des poches pour les marsupiaux dont les mères ont été tuées par les feux. Reportage pour Europe 1 de Frédéric Michel.
Nous sommes devenus les grands-mères des bébés kangourous.
Émues aux larmes, elles ont sans hésiter dégainé leurs aiguilles, ciseaux et fils à coudre.
Ces petits animaux tout petits, il fallait faire quelque chose.
À l'image de Jacqueline, elles sont 8 mamies à s'être retroussées les manches. Viviane et Adrienne font partie de l'équipe.
Déjà, ces incendies, c'est quelque chose d'abominable. Quand on nous a parlé de ces petits kangourous et marsupiaux orphelins, on a tout dit d'accord à l'unanimité.
Je suis en train de vous filer une poche intérieure, la poche de rechange quand ils ont fait ce qu'il faut dedans.
À 89 ans, Zizou, c'est son petit surnom, ne lâche pas sa machine à coudre.
On fait ça de bon cœur. Moi, je viens en dansant. Et puis, c'est la bonne cause. On ne remplace pas les mamans, mais nous sommes les grands-mères. J'espère qu'un jour, on aura des photos.
Guy Dubrulle-Pasquier est le président du Bel Âge de Villeneuve-Loubet.
Et ça serait bien que l'on puisse trouver des correspondants en Australie pour pouvoir leur envoyer les poches. Actuellement, c'est 120 poches en préparation et il y en a déjà 40 qui sont parties.
Et c'est notamment avec les t-shirts des pompiers des Alpes-Maritimes que les mamies ont réalisé les poches des kangourous.
Et ces initiatives se multiplient en France. D'autres poches pour bébés kangourous sont parties récemment de Carcassonne.
Le journal des sports.
Et c'est avec vous, Félix Roy. Bonjour à vous.
Bonjour.
La 25e journée de Ligue 1 de football a commencé hier et le PSG ne s'est pas vraiment rassuré, hein, on va dire, avant son déplacement à Dortmund dans Ligue des Champions.
Voilà, pas vraiment. C'est le match d'avant Ligue des Champions qui comporte toujours à Paris sans le tension et de rebondissement. Les spectateurs en ont profité hier. Peut-être le plus beau match de la saison, 4 buts partout sur la pelouse d'Amiens. Les Parisiens ont montré du caractère, mais surtout des absences forcément pointées du doigt à l'approche de ce grand rendez-vous, ce qui a le don d'exaspérer Thomas Tuchel. On l'écoute.
Je sais que pour vous et pour tout le monde, c'est totalement normal qu'on gagne, on gagne, on gagne, on gagne, sans but encassé, sans but encassé. Et c'est une demi-heure qui nous sont pas concentrés. Ça montre que ça peut venir parce que c'est Ligue 1. C'est Ligue 1, c'est qualité. Et tout le monde pense, maintenant vous êtes inquiet, beaucoup de problèmes. Non, c'est la vie, c'est le foot. Ne sont pas concentrés, ça peut arriver.
Voilà, Ligue 1, c'est qualité. Donc le PSG qui joue mardi et qui se rend à Dortmund dès demain. Vous suivrez tout ça évidemment avec Julien Froment en Allemagne. La 25e journée de Ligue 1 qui s'est poursuivie dans la soirée avec la victoire de Nice 2-0 sur la pelouse de Toulouse. Bon dernier, le nul 2-2 entre Bordeaux et Dijon. 0-0 entre Nantes et Metz à la Beaujoire. Et la victoire des Crocos nîmois au Costières 1-0 face à Angers.
Et cette 25e journée qui se poursuit aussi aujourd'hui.
Victoire obligatoire pour Lyon à domicile face à Strasbourg. Rennes 3e de Ligue 1 se déplace à Reims, Brest, Saint-Etienne et puis l'OM en déplacement à Lille à 21h. Les Marseillais, deuxième, ont l'occasion eh bien, de mettre leur adversaire du soir à 12 points. L'OM, dont la belle série s'est arrêtée il y a 4 jours face à Lyon. Il faut réagir. Valentin Rongier.
Oui, forcément, on était déçus. C'était une très très belle série qu'on a réalisée. Maintenant, l'enchaînement des matchs nous permet d'oublier assez rapidement parce qu'on a l'opportunité de se rattraper avec ce déplacement à Lille. Là, il est vrai qu'on a certainement un avantage psychologique sur cette équipe de Lille étant donné qu'on a gagné au match aller, mais on sait très bien que le match sera très compliqué, donc il faut surtout pas y aller en pensant que ce sera facile.
On passe au biathlon maintenant avec la suite des mondiaux en Italie. Les Français ont ouvert leur compteur de médailles hier avec le sprint masculin. Et voilà qui les place dans de bonnes conditions pour la poursuite aujourd'hui.
Exactement, puisque le classement du sprint détermine l'ordre de départ pour la poursuite. On aura donc Quentin Fillon-Maillet en deuxième position, derrière le russe Alexander Loginov, Martin Fourcade troisième, Emilien Jacquelin, lui, s'élancera en sixième position. Il y aura des chances de revenir sur le russe. Et Martin Fourcade compte bien en profiter. On l'écoute.
Ouais, ça va être une belle bagarre quand Quentin et Loginov qui sont juste devant, mais nous derrière on peut s'organiser aussi ensemble pour essayer de revenir et voilà, c'est une course à 4 tirs, donc sur 20 balles il y aura des opportunités, à moi de continuer à développer une belle moyenne de tir et je sens que j'ai les armes pour me défendre sur la piste et j'ai envie de m'appuyer dessus.
Voilà la bataille France-Norvège qui va encore faire rage cet après-midi entre les Français et les frères Beu, Tarjei et Johannes. C'est à partir de 15h15. Juste avant, les Françaises auront soif de revanche après le sprint raté de vendredi. On suivra tout ça avec Axel May, notre envoyé spécial en Italie.
Et merci beaucoup, c'était le journal des sports sur Europe 1, signé Félix Rouat. On passe à la météo. Je vous rappelle, hein, toujours deux départements en alerte orange, pluie, inondation, le Finistère et le Morbihan. Le Finistère qui est également en vigilance orange pour le vent violent. Attention Valérie Darmon.
Absolument Florence, le vent qui se renforce en ce moment d'ailleurs sur ces deux départements, mais aussi jusqu'au Pas-de-Calais, tout en restant moins fort que la semaine dernière bien sûr. C'est en fin de journée que le temps va redevenir variable. Les alertes seront d'ailleurs normalement levées vers 16h. Les cumuls attendus correspondent globalement à un demi-mois de précipitation pour un mois de février. Et dans les heures qui viennent sur le Finistère, on attend des rafales à 100-120 km/h dans les terres, 130 sur les côtes. Pour les autres départements bretons, autour de 80 à 100 km/h dans les terres et jusqu'à 110 sur le littoral. Des Pays de la Loire jusqu'à la Belgique et la Lorraine, un temps bien pluvieux se généralise aussi. Le vent va souffler jusqu'à 100 km/h sur les côtes de la Manche, 110 sur le littoral. Des Pays de la Loire à la frontière belge, jusqu'à 90 km/h, y compris jusque sur la région parisienne. En soirée et surtout la nuit prochaine, les pluies et le vent turbulents s'atténuent en se décalant sur le nord de l'Aquitaine et les Charentes, le centre et dans l'est du pays. En attendant, sur le reste de la France, aujourd'hui, le temps est moins agité, bien sûr, et surtout plus lumineux, carrément ensoleillé sur la Nouvelle-Aquitaine. Les maximales sont en hausse, avec 14 à 20 degrés sur la majeure partie de la France et jusqu'à 25, justement, sur le Pays Basque.
C'est pas rien, 25 sur le Pays Basque, hein, 16 février. On va se retrouver dans un petit instant avec notre invité, le politologue Olivier Roucan, pour parler de cette réforme des retraites si controversée qui arrive demain à l'Assemblée.
Vous écoutez le journal de la mi-journée avec Florence Cohen sur Europe 1. Il est midi 49 et il est temps d'accueillir votre invité, Florence.
Absolument, Marlène, parce que la réforme des retraites arrive demain, donc en examen à l'Assemblée nationale. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour en parler, nous sommes avec notre invité. Bonjour Olivier Roucan.
Bonjour.
Vous êtes politologue, chercheur associé au CERSA, le Centre d'études et de recherche en sciences administratives. Bon, pour le contexte, la majorité arrive dans cette discussion avec la polémique sur le deuil d'un enfant depuis 15 jours sur les bras, la câlinothérapie du président qui a marché, mais enfin pas marché sur tout le monde, ce séisme Benjamin Griveaux qui concerne pas proprement parler les parlementaires, mais qui va forcément les toucher. Quel est l'état d'esprit, dans quelle tonalité on entame ces débats ?
Forcément, une posture qui est défensive, puisque en effet, les raisons de douter... se multiplie, donc c'est une posture défensive et sur le plan parlementaire, cela continue puisque déjà en commission spéciale, nous avons vu que la commission n'a pas pu terminer les travaux du fait du nombre très important d'amendements. Bis repetita pour la séance publique, beaucoup d'amendements aussi, donc cette stratégie des opposants qui est une stratégie de blocage, selon eux la seule possible. Bon, donc se rajoute à ce contexte politique très, très difficile pour la majorité, le fait que le Parlement dysfonctionne et du fait de son rabaissement qui est ancien mais qui a été augmenté depuis 2017.
Vous l'avez dit, 41 000 amendements déposés sur ce seul texte. C'est du déjà vu, ça, franchement?
On a déjà vu dans l'histoire parlementaire des moments d'obstruction. Alors, ensuite, il y a la comptabilité des amendements, ça semble assez inédit, mais on a déjà vu, si vous voulez, cette technique. Elle est assez courante, il faut le savoir, aux États-Unis, où le Parlement a plus de pouvoir qu'en France. Donc, ça fait partie des techniques, et il faut toujours rappeler que le gouvernement et le président, mais surtout le gouvernement, puisque c'est par rapport au Parlement, disposent aussi de moyens pour passer au-dessus ce genre de stratégie. Donc, ça fait partie des outils tout à fait légaux. Et on va voir comment le gouvernement riposte à cette offensive des parlementaires.
Ouais, on va y venir effectivement aux moyens dont ils disposent. Mais j'ai quand même une autre question pour rebondir sur votre réponse de tout à l'heure. Vous avez dit que la commission spéciale n'a pas fini ses travaux, effectivement, parce qu'il y avait trop d'amendements. Donc, le résultat, c'est que le texte arrive sous sa forme gouvernementale, avec pas une virgule de changé. Ça donne quel signe, ça?
Ça donne le signe, justement, de la difficulté qui est finalement accrue depuis, comme je le disais, 2017, d'avoir un Parlement et un gouvernement qui arrivent à travailler correctement ensemble. Et c'est d'autant plus, finalement, entre guillemets, surprenant que la majorité est confortable. Et on voit bien, là, que sur cette réforme des retraites, y compris au sein de la majorité, il y a des problèmes. Alors, on n'appelle pas ça la fronde, ça ne se matérialise pas de la même manière que sous le quinquennat précédent, mais il y a quand même des problèmes. Des divisions, certains députés sont obligés d'écrire au Premier ministre pour se faire entendre. Enfin bon, donc on arrive à un système représentatif qui dysfonctionne trop. Donc, il faut se poser, à mon avis, la question du quinquennat, parce qu'on voit que ça a quand même pas mal dérégler les choses.
La question du quinquennat, c'est-à-dire qu'il faudrait en changer les modalités? Revenir au septennat?
Il faut revenir à un décalage entre la durée d'un mandat parlementaire et la durée du mandat présidentiel pour que le Parlement, même s'il a un temps plus court, puisse mieux faire son travail, parce que le président et le Premier ministre retrouveront des places différentes. Et donc ça donne à ce régime à nouveau une logique, on va dire.
Alors, l'obstruction parlementaire de la France insoumise est donc manifeste. Avec quel résultat? On risque d'étirer le calendrier. Le gouvernement voulait un vote le 4 mars. Ça risque de ne pas être tenable. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler pendant les municipales alors que l'opposition, les Républicains, va hurler à l'obstruction démocratique?
D'abord, c'est pas nouveau que les municipales surviennent au milieu d'une mandature.
On avait prévu d'arrêter les travaux.
Oui, mais était-ce vraiment, sinon réaliste, dans tous les cas opportun? Finalement, les travaux parlementaires se déroulent à leur niveau et les municipales au leur. Faut-il faire en permanence des liens? Alors, on voit bien d'ailleurs que les temporalités démocratiques de ce fait sont déréglées. Hein. Vouloir accélérer à tout prix, le Parlement ne peut pas s'en contenter. Il a besoin de temps pour délibérer de la loi. Alors, pas pour reporter au calendrier grec l'adoption de réformes, mais délibérer, c'est collectivement s'approprier un texte, l'amender et le voter. Et pour ça, il faut du temps. Or, vouloir le raccourcir à tout prix, alors il y a déjà la procédure accélérée, éventuellement il va y avoir des outils sur le fait qu'on va écarter des amendements très rapidement, et ce sera nécessaire, puisque sur les 41 000, de toute façon, il y a des amendements un peu fantasques. Mais si vous voulez, il faut quand même se mettre en tête que le temps du Parlement, le temps de la délibération, n'est pas celui de l'exécutif. Parce que sinon, on fait quoi au bout d'un moment? On supprime le Parlement? C'est ça l'idée?
Alors, vous parliez tout à l'heure, Olivier Roucan, des moyens que le gouvernement a pour pallier cette obstruction parlementaire et cette lenteur parlementaire. Ben, y en a bien un qui commence à germer dans les têtes, hein. C'est l'article 49.3, c'est-à-dire qu'on passe sans vote, on s'expose à une motion de censure, mais on passe sans vote. Je vous propose d'écouter ce que disait ce matin Valérie Rabault, présidente des députés socialistes. Elle était ce matin l'invitée d'Europe 1.
Vous vous rendez compte?
Bah quoi?
À chaque fois que les 49.3 étaient utilisés précédemment, notamment par Michel Rocard, c'était sur des sujets vraiment très limités. Là, on parle de tous les Français. Là, si ce 49.3 était activé, ce serait vraiment un avis de désaveu vis-à-vis du gouvernement et du président de la République. Bon. Ce serait du délire. Bah. Donc, je ne sais pas ce que le gouvernement et le président de la République souhaitent faire, mais évidemment, nous combattrons cette idée qu'ils puissent utiliser le 49.3 et nous utiliserons bien entendu toutes les dispositions pour interpeller le Conseil constitutionnel, parce qu'on a encore toujours un dernier recours, pour faire casser cette loi.
Ce serait une forme de désaveu quand même, le 49.3, pour le gouvernement.
Oui, ce serait, si vous voulez, l'échec de d'être arrivé à recueillir un fort compromis sur une réforme fondamentale, puisque c'est un nouveau pacte social en clair qui est proposé, là, hein, relations intergénérationnelles, etc. Donc ce serait un aveu d'échec de réunir un fort compromis, ce serait un passage en force. Bon, donc sur le plan de la légitimité, ça pose problème. Sur le plan de la légalité, toujours le rappeler, aucun. Hein, c'est tout à fait constitutionnel. Bon, rappelons quand même qu'il y a d'autres techniques. Hein, le gouvernement peut ne retenir que certains amendements aient proposé aux députés de voter. Il n'est pas donc obligé tout de suite d'utiliser le 49-3, nous verrons bien.
La gauche, les oppositions de gauche menacent d'une motion de censure. Ça peut être dangereux pour le gouvernement. En général, ça passe jamais, ces trucs-là. Oui. Mais là, vu l'étiolement de la majorité, on commence à se poser la question.
C'est symbolique, mais ça permet d'indiquer à l'opinion publique et aux électeurs qu'il y a un vrai mécontentement, un vrai dysfonctionnement démocratique. C'est ça, la motion de censure, en fait. Les probabilités d'adoption sont quasi nulles, hein, du fait des rapports de force aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Même s'il commence à y avoir quelques problèmes au sein de La République En Marche, une censure, c'est autre chose. Hein. Les frondeurs n'avait jamais voté la motion de censure.
C'est exact. Mais vous le disiez, quelques problèmes au sein de La République En Marche. On a vu le courrier de deux députés qui se posent de fortes questions sur le financement. On a vu les députés qui commencent à dire « Mais moi, dans ma circonscription, je me fais harponner sur cette réforme des retraites. » Ça tangue.
Ah oui, ça tangue même depuis un certain temps. Maintenant, on avait vu déjà des difficultés sur les lois relatives à l'immigration, sur quelques lois sociétales. Mais là, nous sommes à un point de cristallisation des mécontentements et qui dépasse même la question des retraites, en fait. Hein, c'est ça ce qui... Et donc ça, c'est préoccupant pour la suite.
Oui, c'est préoccupant pour la fin du quinquennat. Effectivement, on n'en est finalement qu'à la moitié. Merci beaucoup, Olivier Roucan. Je rappelle que vous êtes politologue. Merci infiniment de nous avoir donné votre analyse sur cette réforme des retraites qui arrive demain au Parlement. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'après 13h, vous retrouverez les Carnets du Monde présentés par Rémi Bostaron au programme Haro sur les juges en Pologne. Avec la réforme de la justice, ils exercent désormais leur métier sous la pression du pouvoir. On ira aussi au Kenya où l'invasion de criquets pèlerins dévore tout sur leur passage. Et puis, deux jours après la Saint-Valentin, on verra qu'en Italie, l'amour s'écrit sur les murs. Oui, le graffiti amoureux a été érigé au rang d'art dans ce pays. Ça, ce sera juste après 13h.
Bon dimanche avec nous et avec Europe 1.